Alors, imaginez une église évangélique, c'est-à-dire une église qui prétend être centrée sur l'évangile, sur l'enseignement de la Bible. Et les membres de cette église sont vraiment accueillants. La louange est dynamique. Les prières viennent sincèrement du cœur. La prédication est bien illustrée et assez intéressante à écouter. Le pasteur est franc dans ce qu'il dit. La Sainte Cène est célébrée à la fin du culte. Même après le culte, les gens restent pour parler chaleureusement les uns avec les autres. Mais il y a quelque chose dans cette église qui cloche. Au cours de ce culte, il n'y a pas une seule référence qui est faite à la Bible. Pas de lecture biblique, pas de citation de la Bible dans la prédication, pas de lien entre la Sainte Cène et l'instruction de Jésus adressée à ses disciples dans la Bible. Bien sûr, Dieu est mentionné plusieurs fois dans le culte, le nom de Jésus est invoqué, mais le culte n'est pas centré sur Dieu. Il ne s'intéresse pas à ce que dit Dieu. Par contre, le culte est centré sur l'amitié, sur les bons sentiments, sur certains rituels. L'accent n'est pas mis sur ce que dit Dieu, mais sur ce que l'homme dit. C'est sûr que vous n'êtes pas choqué par l'existence d'une telle église. Nous savons bien que ce genre d'église existe dans le monde. Mais je suis un peu dérangé de même par l'idée d'une église qui ignore Dieu et qui ignore ce que dit Dieu dans sa parole. Dans notre culte, on risque d'être centré sur nous-mêmes au lieu d'être centré sur Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons reprendre notre étude du livre de l'Ecclésiaste et nous allons aborder la question du culte que nous rendons à Dieu. Déjà dans ce texte de l'Ecclésiaste, nous avons vu qu'une vie sans Dieu, dans un monde séculier, ça ne satisfait pas nos besoins, ça ne répond pas à nos questions les plus importantes. L'auteur de ce livre nous montre qu'une vie sans Dieu, ça aboutit logiquement au désespoir. Avoir une relation avec Dieu, c'est la seule solution, la seule possibilité d'échapper à la vanité de la vie sous le soleil. Mais maintenant, l'auteur du livre aborde la question de comment s'approcher de Dieu dans l'adoration. Et ce qu'il nous dit, c'est que le vrai culte est centré sur Dieu. Le vrai culte est centré sur Dieu. Lisons donc Ecclésiaste, chapitre 4, verset 17 à chapitre 5, verset 6. Ecclésiaste 4, 17 à 5, 6. Prends garde à ton pied quand tu vas à la maison de Dieu et approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne reconnaissent pas qu'ils font le mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. En effet, le rêve vient de la foule des soucis et la voix de l'insensé se fait entendre par une foule de paroles. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'y a point de faveur pour les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un sans l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter de tes paroles et ruiner l'œuvre de tes mains? Car dans la foule des rêves, il y a des vanités, de même qu'il y a beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et nous te remercions pour ce privilège de pouvoir étudier ta parole aujourd'hui, Seigneur. Je te prions, Seigneur, d'illuminer la vérité de ta parole pour que nous comprenions la profondeur de ta sagesse et afin que nous appliquions cette vérité à notre propre vie. Au nom de Jésus. Amen. Ce texte parle beaucoup des vœux. Il mentionne la maison de Dieu. Il parle des choses qu'on a mal à comprendre aujourd'hui. Mais il y a une idée plus importante et vraiment centrale dans ce texte. Remarquez le début et la fin de cette section de l'Ecclésiaste. Le texte commence et finit par la même idée. Craigne Dieu, craigne Dieu. Ne prenez pas le culte à la légère. L'idée principale est celle-ci. Le vrai culte est centré sur Dieu. C'est centré sur ce que dit Dieu. L'auteur du livre de l'Ecclésiaste, qu'on appelle le Coëlète ou le philosophe, s'adresse aux croyants dans ce passage. Il s'adresse à ceux qui vont à la maison de Dieu. Il parle à ceux qui viennent au culte. Et dans ce texte, il y a deux points qui illustrent l'idée que le vrai culte est centré sur Dieu. Premièrement, nous voyons qu'un cœur contrit écoute Dieu. Un cœur contrit écoute Dieu. Un culte centré sur Dieu est un culte où on écoute Dieu, un culte où on est attentif à sa parole. Le Coëlète nous dit de prendre garde à nos pieds quand nous allons à la maison de Dieu. Ce qui veut dire, prenez garde quand vous allez à tout endroit où Dieu se révèle. Pour les Juifs à cette époque-là, c'était le temple, le sanctuaire, le tabernacle. Prenez garde à votre conduite. Préparez-vous avant d'adorer le Seigneur. Et bien que ce texte s'applique à toute situation d'adoration, le Coëlète parle spécifiquement du culte public. Prenez garde à votre pied quand vous allez à l'église réformée évangélique de Lyon. Dimanche matin, tu sors du lit fatigué à cause d'une soirée entre amis la veille. Le premier mot qui sort de ta bouche, c'est un petit commentaire méchant quant à ta femme, qui réplique à son tour avec quelques insultes aussi. Donc la journée ne commence pas très bien. Tu renverses ton café aussi, tu es en colère, tu manges ton petit déjeuner en silence pendant que les enfants se disputent aussi. Tu essaies de te divertir juste quelques instants en lisant le journal, mais ta femme te rappelle qu'il faut bientôt partir pour l'église. Mais les enfants n'écoutent pas ces instructions, ne s'habillent pas correctement et assez vite. Vous quittez enfin la maison pour aller au culte, mais avant de monter dans la voiture, tu te rends compte que ton petit dernier ne porte pas de pantalon. Alors, dès que c'est réglé, vous repartez, mais cette fois, tu te rends compte que tu as oublié la clé de la voiture dans la maison. La troisième fois, finalement, c'est la bonne. Vous partez pour l'église. Dans la voiture, tu te disputes avec ta femme, tu es impatient au feu rouge, tu n'as franchement pas envie d'aller à l'église, de passer quelques heures avec des chrétiens dont certains te fatiguent. Avant de pénétrer dans l'église, tu lâches quelques gros mots dans ton fort intérieur, juste pour évacuer ta frustration à la vie. Mais une fois que la porte franchit, tu mets sur ton visage un grand sourire, n'est-ce pas, afin de saluer tes frères et sœurs avec la joie du Seigneur. Vous connaissez un peu ce genre de situation, n'est-ce pas? Vous connaissez l'homme que je viens de décrire. Je confesse que des fois, c'est moi. Bien sûr que cette histoire est un peu exagérée, mais mon attitude n'est pas toujours la bonne quand j'arrive à l'église. J'imagine que si vous êtes honnête, vous avez vécu des dimanches similaires, n'est-ce pas? Avec des problèmes entre colocataires, des disputes entre époux et épouses, du stress à cause du travail, de la fatigue, de l'apathie, du péché, tout simplement. Nous sommes très forts dans ce domaine, amertume à l'intérieur et douceur à l'extérieur, n'est-ce pas? On vit comme un païen pendant la semaine et on ose venir au culte comme un saint. On prend le culte à la légère. On manque de révérence dans l'adoration. On ne craigne pas Dieu. Souvent, notre culte est centré sur nous au lieu d'être centré sur Dieu. Et à cause de ça, on n'est pas bien préparé à écouter Dieu et à recevoir ce qu'il veut nous communiquer. Alors qu'en fait, c'est en écoutant Dieu, c'est en écoutant Dieu qu'on est le mieux équipé à l'adorer, n'est-ce pas? Les versets 17 à 2 nous rappellent que la précipitation est toujours une erreur. Des paroles hâtives pour provoquer la blessure, l'amertume, même de la mauvaise doctrine. Si on ne prend pas le temps, ou si on ne prend pas le temps d'écouter Dieu, on doit faire attention à ce qu'on dit devant lui. Le Qohélète, roi philosophe, qui conduit le peuple d'Israël, nous rappelle à tous que les prérogatives de Dieu dans la louange sont plus importantes que les nôtres. La parole de Dieu est plus importante que la nôtre. La loi et les commandements de Dieu sont plus importants que les nôtres. Et on ne doit jamais parler de la part de Dieu si on n'a pas pris le temps de l'écouter, Dieu. C'est le manque d'écoute qui nous mène à la folie. Résister à ce que dit Dieu nous mène à l'hérésie et à la désobéissance. Dans le livre des Proverbes, il est dit à maintes reprises qu'il faut écouter la parole de sagesse. Et dans le psaume, surtout le psaume 119, on est appelé à observer la parole de Dieu. Et ici, le Qohélète parle au peuple. Il nous parle à nous tous et nous dit « Fermez la bouche, écoutez le spécialiste, écoutez Dieu, tout simplement. » Alors imaginez un malade qui va voir son médecin. Le malade explique au médecin ses symptômes, mais ensuite, et avant de laisser le médecin en placer une, le malade fait son propre diagnostic. Il prescrit son propre traitement. Il s'en va pour remédier lui-même de sa maladie. Il prétend écouter le spécialiste, mais en fin de compte, c'est lui, le non-spécialiste, qui prend la place de son médecin. Et ça, c'est ce que nous faisons souvent devant Dieu, n'est-ce pas? Nous n'avons pas pour Dieu assez d'estime ou d'amour, et pas assez d'humilité devant lui, des fois. Nous parlons au lieu d'écouter. Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, dit le verset 1 de notre texte. Ça ne veut pas dire chanter les cantiques courts ou ne priez pas beaucoup, ne prêche pas plus que 10 minutes. Ce n'est pas l'idée de ce texte. Mais dans le contexte du passage, qui est celui de la folie, de la vanité, de la futilité, ça veut dire, par contre, qu'il faut prendre garde. Qu'il faut prendre garde. Ça veut dire, n'oubliez pas à qui vous vous adressez. Il faut de la révérence devant Dieu, le Créateur de toutes choses, le souverain maître de l'univers. Le verset 2 nous fait comprendre que c'est la qualité de ce qu'on dit qui plaît à Dieu. C'est pas la quantité. Ça me fait penser aux paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 6 où il dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. » Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ça me fait penser à la prière du PSG dans Luc chapitre 18 qui a prié après avoir écouté Dieu, après avoir compris la gravité de ses péchés. Et contrairement aux pharisiens qui priaient avec arrogance et hypocrisie, le PSG s'est approché de Dieu avec un cœur contrit en disant « Sois apaisé envers moi, un pécheur. » Le cœur contrit écoute Dieu. Et en écoutant Dieu, son culte est ainsi centré sur Dieu. Mais la deuxième partie de ce texte, mon deuxième point, la deuxième partie de ce texte nous dit qu'un cœur contrit parle sincèrement à Dieu. Le Kohelet fait référence ici au vœu solennel. Regardez les versets 3 à 6. Alors, pour être clair sur le sens de ces vœux, dans le contexte de l'Ancien Testament, le vœu faisait partie du culte qu'on rendait à Dieu. C'était une promesse faite à Dieu, accompagnée d'une demande de bénédiction, souvent. C'était une expression de reconnaissance. Ça accompagnait des offrandes ou parfois des consécrations particulières. Il existe, par exemple, dans l'Ancien Testament, le vœu des Nazaréens. On voit des exemples de vœux dans le Nouveau Testament aussi, comme l'apôtre Paul en Actes, chapitre 18. Donc ces vœux, ça existe dans la Bible, on a des exemples de ça. C'est à cela que le Kohelet fait référence au verset 3 de notre texte, quand il nous encourage à accomplir nos vœux sans tarder. Il continue au verset 4 en nous disant de parler sincèrement. Ça m'a fait penser à Matthieu chapitre 5 où Jésus parle des vœux en disant qu'un vœu implique des promesses ou la promesse de respecter son engagement. Et donc, il vaut mieux parler tout le temps avec vérité et sincérité que de faire des vœux. Mais le principe derrière tous ces propos, c'est que l'objet de notre culte est plus important que notre propre parole. Un vrai culte est centré sur Dieu, pas sur nos vœux ou sur nos promesses. Ce texte nous met en garde contre les vaines paroles dans la louange. Ça nous met en garde contre un manque de sincérité dans la louange, ou même contre une sincérité dépourvue de substance. Le verset 5 nous fait comprendre que la bouche est capable d'entraîner le corps dans le péché. Selon le commentateur Michael Eaton, l'idée du corps ou de la chair au verset 5 désigne l'être humain tout entier, dans un sens. Et donc, la parole malsaine de notre bouche peut nous rendre coupables tout entier. Ça nous condamne. Dans un monde sous le soleil, un monde où Dieu n'existe pas, un monde séculier où Dieu n'entre pas en compte, dans ce monde-là, notre parole est vide de sens absolu, comme on a vu déjà dans le récit d'Ecclésiaste. Dans ce monde-là, un monde sans Dieu, notre parole n'a pas de conséquences éternelles. Mais quand on entre en relation avec Dieu, quand on parle à Dieu, nos paroles sont adressées à la parole, qui est Jésus. Quand Dieu entre en compte, notre parole de foi, d'incrédulité, de repentance ou d'hostilité face à Dieu, cette parole a des conséquences éternelles. L'Église est l'épouse de Christ. Et donc, dans notre culte, l'Église doit s'adresser à son mari d'une manière qui manifeste l'amour, l'engagement et le respect qui lui sont dus. Une conjointe qui se moque de son mari et qui l'insulte montre par son comportement qu'elle ne le respecte pas, n'est-ce pas? Une femme qui ment à son mari, qui brise son engagement, montre qu'elle ne l'aime pas. Les mots hypocrites et les vœux qu'on ne respecte pas parlent d'eux-mêmes. Nous sommes épouses de Christ, rachetées par Dieu, par sa grâce manifestée en Jésus à la croix, et il a donné à la croix sa vie afin de sauver la nôtre. Et donc notre culte doit refléter ce fait. Dans Lévitique chapitre 10, on découvre l'histoire de deux prêtres, des fils d'Aaron, qui ont offert des sacrifices qui n'étaient pas autorisés par Dieu. Et par conséquent, ils ont été tout simplement mis à mort par Dieu. Et dans le livre des Actes, chapitre 5, Ananias et Saphira sont morts sous l'effet de Saint-Esprit à cause d'un mensonge qu'ils ont tenu devant Dieu. Dieu, dans sa providence, a utilisé ces gens comme des exemples pour tous les croyants afin qu'ils prennent l'adoration de Dieu au sérieux. Le culte, le vrai culte est centré sur Dieu. Et un cœur contrit parle sincèrement à Dieu. Ce texte nous dit donc qu'il faut entrer avec prudence, il faut entrer avec prudence, s'approcher de Dieu avec sincérité et repentance. Notre Dieu est un feu dévorant selon Hébreux chapitre 12, verset 29. Quand nous rendons un culte au Dieu de l'univers, nous ne devons pas oublier que ce culte doit être centré sur lui. Nous pouvons tirer au moins trois applications de ce texte. La première est la suivante. Nous pouvons prendre garde à notre pied lorsque nous nous approchons de Dieu en nous attachant à sa parole. On est plus apte à parler correctement si on a pris le temps d'écouter correctement, n'est-ce pas? Et nous pouvons écouter Dieu en lisant et en étudiant sa parole. C'est pourquoi dans la tradition protestante réformée, nous mettons l'accent sur la prédication textuelle de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous faisons des lectures bibliques lors du culte. C'est pourquoi nous encourageons l'étude et la mémorisation de la parole de Dieu. La sincérité avec laquelle on parle ne vaut pas grand-chose si on se trompe sur les enseignements les plus importants de la Bible. Le vrai culte est centré sur Dieu quand on met l'accent sur la Bible. Adam et Ève ont péché contre Dieu parce qu'ils ont remplacé sa parole avec leur parole. Les manœuvres trompeuses du diable nous concernent aujourd'hui comme au commencement. Ces mots, Dieu a-t-il réellement dit, qu'on trouve en Genèse? Dieu a-t-il réellement dit, ne répond pas de rumeurs sur tes frères? Après tout, ça fait plaisir d'écouter les potins, n'est-ce pas? Dieu a-t-il réellement dit, l'immoralité sexuelle ou le concubinage, c'est des péchés contre lui? Cette pensée est démodée, n'est-ce pas? C'est le 21e siècle, après tout. Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez, un attachement à la parole de Dieu nous débarrasse des obstacles qui nous empêchent de centrer notre culte sur Dieu. Attachez-vous donc à sa parole. La deuxième application, c'est que nous pouvons prendre garde à notre pied lorsque nous nous approchons de Dieu en nous préparant bien avant de venir à l'Église. En anticipant le culte et en demandant à Dieu de nous y préparer, la qualité de l'attitude de notre cœur, la sincérité de notre parole et nos motivations seront remarquablement meilleures. Demandez à Dieu de vous débarrasser de toute distraction qui vous empêche de parler correctement devant lui, qui vous empêche d'entrer avec révérence dans sa présence. Et la troisième chose que nous pouvons tirer de ce texte, c'est la suivante. Choisissons avec soin les paroles que nous prononçons devant Dieu. Une parole vaine peut blesser les gens et déshonorer Dieu facilement. Mais une bonne parole peut sauver. Je vais terminer avec une citation de Romains chapitre 10 qui nous dit que si nous confessons de notre bouche, le Seigneur Jésus. Et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous serons sauvés. C'est un exemple de l'amour et la grâce de Dieu. Une bonne parole peut sauver. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous sommes ton peuple et quand nous te rendons un culte, nous entrons dans ta présence, dans la présence d'un Dieu saint, afin d'entendre et de recevoir sa parole sainte. Aide-nous, Seigneur, à passer de la vanité à la révérence. Aide-nous à prendre garde à notre pied quand nous allons à ta maison. Nous prions afin que notre culte et toute notre vie soient centrées sur toi. Au nom de Jésus. Amen.